Crevon, vous êtes sur Jazz for Fun. Whoopi!
Bonsoir à tous, il est 21h, vous êtes sur Just for Fun dans l'émission En tête à tête avec. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, j'ai l'immense plaisir de recevoir un homme, un animateur télé et radio. Il anime chaque jour la quotidienne sur France 5 aux côtés de Maya Loquet. Thomas Hill, bonjour.
Bonjour Mathéo.
Merci d'avoir accepté cette invitation.
Ça me fait très plaisir, d'être avec toi.
Eh bien moi aussi, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Alors j'ai plusieurs questions pour vous.
Ouais.
Quelles études avez-vous faites pour devenir animateur radio et télé?
Alors, tu sais qu'il n'y a pas d'études vraiment faites pour être animateur télé ou radio. Il y a des formations qui existent, mais moi je les conseille pas particulièrement aux gens qui veulent faire ce métier-là, parce que souvent ça coûte très cher et c'est pas du tout la garantie d'avoir du boulot derrière. Donc moi, comme j'avais envie de faire ça depuis très longtemps, j'ai eu un oncle qui m'a dit, bah écoute, tu devrais faire une formation généraliste, et le truc le plus généraliste qui existe, c'est Sciences Po, les instituts d'études politiques. Ça s'appelle études politiques, mais en fait on parle pas énormément de sciences politiques, c'est plus de la culture générale. Donc en fait, ça m'a été extrêmement utile. Moi, j'ai fait Sciences Po Toulouse, et ça m'a été utile d'abord parce que c'était hyper sympa d'être à Toulouse et que c'est une ville géniale, surtout quand on est étudiant, mais aussi parce que voilà, j'ai appris plein de choses dans plein de domaines différents et qui me servent aujourd'hui dans mon boulot de journaliste. Et après, j'ai fait un DESS à la Sorbonne, donc là, qui était plus spécialisé sur l'audiovisuel, ça s'appelle le D2A. Ça veut dire droit de droit. Pardon, j'ai oublié le nom de cette formation.
C'est pas grave.
Droit administratif et audiovisuel à la D2A. Et ça, c'était une année en plus qui m'a surtout permis en fait de connaître des gens un peu du métier, et du coup c'est comme ça que j'ai eu mon stage. En fait, mon premier stage, c'était à Fremantle, et c'est parce qu'il y avait la patronne de Fremantle qui s'appelait Viviane Godefroy à l'époque, qui était venue dans notre DSS et qui nous avait dit: je cherche des stagiaires en développement. Et donc voilà, je lui avais écrit le soir même, voilà.
Et donc, c'est à travers ce stage que vous êtes arrivé dans ce métier.
Ouais, c'est comme ça que ça a démarré, ouais, en développement. Donc, le développement, c'est réfléchir à des nouvelles émissions, et repérer aussi tout ce qui se fait à l'étranger, parce que Fremantle, c'est un gros groupe international. Donc, ils font beaucoup de choses différentes. Ça va de L'amour est dans le pré à Question pour un champion. Et moi, au départ, ils m'avaient pris en stage là-bas, puis ils m'ont embauché derrière. J'ai passé 3 ans et demi là-bas à adapter des formats étrangers pour la France, ou à créer des formats en fait. Et en fait, j'ai créé un jeu qui s'appelle Take Me Out. En français, c'était Toi tu sors. Et c'est un jeu qui s'est vendu dans, c'est un jeu de dating, de rencontre, qui s'est vendu dans une vingtaine de pays. Et du coup, ils étaient hyper contents à Fremantle et tout ça. Mais ça m'a permis aussi d'être repéré par Nagui, en fait, qui avait besoin d'un nouveau directeur du développement chez lui. Donc je suis allé ensuite travailler pour la société de Nagui. Voilà. Et j'y suis resté pendant 6 ans et demi.
Et c'est quoi qui vous a donné envie de vous lancer dans ce métier?
Je pense que c'est en partie Christophe de Chavannes, que je regardais quand j'étais petit, animé notamment Coucou c'est nous. Alors il était sur la fin de Ciel mon mardi, il me semble que j'avais vu un petit peu Ciel mon mardi, mais surtout je me souviens particulièrement de Coucou c'est nous, que je regardais tous les soirs, et voilà, j'adorais son style d'animation et cette émission et sa façon de faire. Et donc ça m'a vraiment voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit: ah, tiens, c'est ça ce que je voudrais faire plus tard. Et après, ça m'a pas lâché, quoi. J'ai toujours eu ça en tête. J'étais un peu fasciné par le monde de la télévision, et donc j'avais envie d'y travailler d'une manière ou d'une autre. Mais après, j'ai toujours eu conscience aussi que c'était quelque chose de très précaire et pas du tout sûr, et que j'avais peu de chances que ça marche. Donc je voulais d'abord aussi avoir un vrai métier. C'est pour ça que j'ai fait cette formation aussi généraliste, qui me permettait de retomber sur mes pattes et de faire autre chose, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu tout de suite aller passer plein de castings à droite à gauche pour essayer de devenir animateur. D'abord parce que je me sentais trop jeune, et puis aussi parce que je voulais avoir un vrai métier d'abord au sein de la télé, parce que moi ce qui m'intéressait c'était la télé dans son ensemble. Et donc c'est pour ça que j'étais content d'abord de bosser dans les coulisses, de bosser au développement d'émissions, puis après je suis devenu producteur artistique d'émissions. Donc j'ai fait des émissions comme N'oubliez pas les paroles par exemple, et c'est hyper formateur parce que ça me sert même encore aujourd'hui quoi, hein. Et je trouve qu'on est aussi un animateur un peu plus complet quand on sait comment on fabrique une émission. Donc voilà, et puis je me dis toujours que c'est quelque chose auquel je pourrais revenir un jour. Le jour où je serai viré de la télé, bah j'aurai quand même un autre métier un peu plus solide derrière. Voilà. Parce que ça dure jamais. Enfin, à part Michel Drucker, il y a pas énormément d'animateurs qui ont passé toute leur vie. Bah la preuve avec Christophe de Chavannes en ce moment, bah voilà, il fait plus de la production que de la présentation. Et peut-être qu'un jour je ferai ça aussi. Voilà.
Et donc vous êtes rentré petit à petit dans le monde de la télé en faisant ce que vous avez dit, pour après devenir animateur présentateur télé.
Ouais, en fait ça a commencé vraiment la présentation, enfin l'antenne. Un jour on m'a appelé pour j'étais toujours chez Nagui, et on m'a appelé pour faire c'est quelqu'un qui me connaissait et qui m'a dit tiens je te verrais bien remplacer une de nos chroniqueuses sur Médial Magazine. Parce que il savait que je connaissais bien les médias, que j'aimais ça et tout ça, donc j'ai passé un casting pour ça, ils m'ont pris pour faire une chronique dans Médial Magazine, et puis ça a duré 3 saisons. Et c'est avec le même producteur de Médial Magazine que on a répondu à l'appel d'offres ensemble pour La Quotidienne. Donc comme il savait que moi je développais des émissions aussi, il m'a dit voilà, j'aurais besoin de ton aide pour écrire une nouvelle émission autour de la consommation. Et là, c'est un peu comme un concours, en fait. Il y a plein de producteurs. On était genre 57 à remplir un dossier en disant, voilà comment on voit cette émission, voilà ce qu'on mettrait dedans et tout ça. Ensuite, t'as la chaîne qui sélectionne les dossiers, mm-hmm. les meilleurs dossiers. Donc là, on était plus de 15. Et puis ensuite, il y a une deuxième sélection où on vient défendre notre dossier à l'oral. Et puis, il y en a 3 qui peuvent faire ce qu'on appelle un pilote. Donc, une émission qui ne sera jamais diffusée, pour montrer vraiment comment serait l'émission. Donc on était plus que 3 boîtes à faire ça. Et puis ensuite ils font tester en fait ton pilote auprès d'un petit public de représentatif un peu de la population, c'est genre 50 personnes qui vont regarder les émissions et qui vont dire quelle est leur préférée et ce qu'il faudrait changer, ce qu'il faudrait ajuster, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, tout ça. Et donc c'est notre pilote qui a été sélectionné. Donc voilà comment a démarré La Quotidienne il y a 8 ans maintenant.
Et est-ce que c'est le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez petit?
Ah bah oui, c'est vraiment ça ce que je voulais faire. J'ai même retrouvé un papier, je te parlais de Chavannes tout à l'heure, j'ai retrouvé un petit papier dans ma chambre où j'ai écrit et je l'avais planqué sous ma moquette. Bonjour, j'ai 11 ans, je m'appelle Thomas de Chavannes. Hein. Pour te dire comme j'avais ça en tête, comme j'avais envie de faire ça, et puis voilà, et c'est toujours chouette de dire qu'on a un peu réussi à réaliser un peu ses rêves quoi de d'enfance quoi. Ça c'est génial dans la vie. Après j'aurais pu être heureux sans ça. Hein. on peut faire plein de choses dans la vie. Je pense qu'il faut pas non plus, et c'est ce que je dis tout le temps, être obsédé par ça, parce que sinon après ça emporte tout et on n'a plus le détachement nécessaire. Moi je me disais tout le temps si ça arrive c'est chouette, si ça arrive pas c'est pas grave, je peux faire autre chose. Moi j'ai fait beaucoup de théâtre notamment et j'adore ça et de l'improvisation et voilà. Ça m'apportait beaucoup de bonheur, quoi. Donc, je pense qu'il faut pas être obsédé, même si c'est une envie, un souhait. J'ai déjà remarqué que parfois il y a des gens qui en rêvent trop et finalement ça se réalise pas et c'est très dur pour eux quoi. Donc faut garder les pieds sur terre, avoir conscience que c'est quelque chose qui est pas gagné parce que en fait il y a très peu d'élus à l'arrivée. Donc c'est aussi une partie, mais une grande part de chance là-dedans, hein, de rencontres, de gens sur qui on va tomber, un directeur des programmes à qui tu vas plaire ou un autre à qui tu vas pas plaire, et donc ça va pas se faire. Mais c'est juste la vie d'une personne, quoi, souvent. Donc ça tient à tellement peu de choses faut être là au bon endroit au bon moment. Bon, voilà. C'est très 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 aléatoire.
Alors votre interview continue, Thomas, mais avant cela, c'est le moment d'une pause musicale sur Just for Fun. À tout de suite.
Many years ago is when it all began. You found a home in the palm of my hands. The minute I held you to my chest, I knew I found the only one for me, such a beautiful sound. Sing for me, my darling, won't you sing it for me? Let my fingertips keep playing your sweet melody. Sing for me, for me, such a beautiful sound. Sing for me, my darling, won't you sing it for me? Let my fingertips keep playing your sweet melody. Sing for me, my darling, don't need no symphony. Let my fingertips keep playing your sweet melody.
Nous sommes de retour sur Just for Fun et vous êtes toujours dans l'émission En tête à tête avec. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, j'ai l'immense plaisir de recevoir Thomas Hill. Ça va toujours, Thomas ?
Ça va, nickel.
Alors, la suite des questions continue. Tout à l'heure, vous nous avez dit comment vous êtes arrivé dans la quotidienne après avoir répondu à une appel d'offre. Est-ce que vous savez comment est né le concept de l'émission ?
Ah, bah oui, je sais très bien puisque je l'ai écrit avec. Parce que Zarek est le producteur de l'émission. On l'a écrit ensemble. Suite à cet appel d'offres où on nous demandait de faire une émission autour de la consommation, bah, on a réfléchi à toutes les rubriques qu'on pouvait mettre dedans, les gens aussi qui pouvaient constituer la bande de l'émission. On s'est tout de suite dit, il faut que ce soit une bande chaleureuse. Moi, c'est comme ça que j'aime surtout faire de la télévision. C'est avec une équipe avec qui je m'entends bien. Donc, ça a été un luxe de pouvoir aussi aller chercher des gens avec qui j'étais susceptible de bien m'entendre, avec qui ça pouvait bien se passer, des gens qui soient dans le même esprit, qui soient pas des stars, parce qu'on voulait pas de stars dans l'émission, on voulait que ce soit le plus proche possible des gens, quoi. Voilà, c'était ça notre ambition de départ, c'était de se dire on va faire un rendez-vous où vraiment on a l'impression de déjeuner avec une bande d'amis, quoi. Et les gens nous le disent beaucoup aujourd'hui, ça. c'est vraiment une fierté pour nous de se dire que il y a un attachement fort à la bande et qu'il y a un esprit de bande en fait. C'est finalement quand on regarde aujourd'hui à la télé, c'est rarement comme ça. Il y a souvent le ou les présentateurs un peu en majesté, et puis ensuite il y a des chroniqueurs à qui ils donnent la parole quand ils le décident. Nous, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est vraiment ça, la parole circule en permanence et il y a un côté un peu familial, quoi. Voilà. Et ça, c'est chouette d'arriver à faire ça. Moi, je suis très content de ça, quoi. Parce que ça donne vraiment une bonne ambiance simple, directe. On se tutoie, par exemple, ce qui est assez rare à la télévision. En général, je sais pas très bien pourquoi il y avait une convention qui disait qu'il fallait se vouvoyer parce que sinon le téléspectateur allait se sentir exclu et ça. Mais en fait, on rend compte que les gens, ils comprennent très bien, c'est normal, on se connaît, on se tutoie, on se voit tous les jours. Les gens font la même chose avec leurs collègues au bureau, quoi. En général, ils se tutoient, quoi. Et puis ça évite de faire des hiérarchies et tout ça, donc c'est beaucoup plus naturel et en fait les gens, ils apprécient ça.
Et donc c'est peut-être ça justement la recette du succès de cette émission, puisque elle existe depuis 7 ans.
Ouais, c'est même la 8e saison maintenant, et oui, je pense que c'est une des recettes, ouais, parce que les gens nous le disent beaucoup, que à la fois ils regardent l'émission pour les conseils qu'on leur donne, parce qu'ils apprennent pas mal de choses sur leur vie quotidienne, sur leur façon de consommer, et souvent ça les amène à changer pas mal de petites choses dans leur vie. Donc ça c'est chouette parce que c'est en général pour le mieux. Et puis parce qu'on va parler de plein de choses de la vie quotidienne, y a tout ce qui est consommation, ce qu'on va mettre dans notre caddie ou dans notre panier, mais il y a aussi on va parler des animaux, du jardin, de voyage, bon, et donc c'est des choses qui peuvent les inspirer et les nourrir pour leur vie. Et puis aussi ils nous disent mais si je reviens de jour en jour, c'est pour l'ambiance, quoi. C'est pour la bande et pour l'esprit de bande qu'il y a entre vous et le fait qu'on puisse se chambrer assez librement mais que ce soit jamais agressif ou méchant, parce que ça aussi ça peut se voir parfois. Nous, il y a aucune animosité, au contraire, ça se sent que même quand on se tâte, c'est parce qu'on a juste envie de se marrer, quoi. Voilà. Et ce qui est chouette pour nous, enfin ce qui est hyper confortable, c'est que c'est pareil hors antenne, quoi. On n'est pas obligé de jouer un jeu à l'antenne, en fait. D'ailleurs, je pense qu'il y a un moment où ça se voit quand même.
Oui.
Mais nous, vraiment, on s'entend hyper bien, même en dehors de l'antenne, et on est même un peu obligé de se filtrer à l'antenne pour pas dire trop de bêtises, quoi. Mais il y a une super ambiance, quoi. Et tous les gens qui viennent, même en plateau, les invités nous le disent, quoi, que c'est chouette. Et comme on est en plus dans un décor, et ça aussi je pense que ça participe au succès, le décor c'est un loft, un esprit appartement, bah du coup ça donne encore plus l'impression d'être à la maison et de oui. pas être trop à la télé, quoi. D'autant qu'on a des caméras qui sont pour beaucoup automatiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui règlent les caméras à distance avec des joysticks, et ce qui fait qu'on les voit pas beaucoup, les caméras elles sont toutes petites, on les voit pas beaucoup, il y a pas grand monde en plateau avec nous. Donc très vite on les oublie, quoi. Voilà. Ça c'est vraiment agréable, quoi.
C'est comme si vous étiez dans le salon chez les gens, quoi.
Ouais, exactement. Alors et puis ça, comme on passe en plus à l'heure du déjeuner, il y a des gens qui nous disent bah, ça nous donne des thèmes de discussion à table. C'est chouette, on participe à la discussion à travers l'écran, parce que voilà, chacun donne aussi un peu son avis. Puis c'est des choses qui intéressent tout le monde parce que c'est vraiment sur la vie de tous les jours, quoi. Voilà. Donc on a tous quelque chose à dire là-dessus.
Et comment cela se passe une journée de tournage pour vous quand vous tournez la quotidienne ?
Alors en fait, ça a changé au fur et à mesure des années. Beaucoup pour des questions de coûts. Maintenant, on concentre nos tournages sur les lundis et mardis. Donc ça veut dire que le lundi, on va tourner 3 émissions. Dont une en direct, celle du lundi évidemment, et puis le mardi on va tourner 2 émissions dont une en direct aussi, celle du mardi. Donc on a 2 directs par semaine et puis autour de ça il y a les émissions et en fait ça fait des journées quand même assez intenses parce que il y a aussi des répétitions quand même. On est obligé de faire une sorte de filage de l'émission, évidemment c'est plus court que l'émission elle-même, mais c'est beaucoup pour les caméras, pour que le réalisateur sache exactement ce qu'on va montrer à quel moment, Parce que nous, il y a aussi beaucoup de déplacements, donc pareil, il faut les répéter, que les équipes peuvent changer, on n'a pas toujours les mêmes techniciens. Et puis que voilà, c'est une émission qui est assez riche en contenu, c'est-à-dire qu'on a des images, des photos à montrer, on a des objets à montrer, et tout ça, bah il faut que ce soit un peu prévu. Donc on est obligé de répéter l'émission. Et ça voilà, forcément, ça prend un peu de temps, donc. Ça fait des journées un peu denses, surtout quand on en tourne trois dans la journée, en fait, c'est assez crevant. C'est-à-dire que moi, le lundi soir, en général, je suis à ramasser la petite cuillère, quoi, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie, quoi. Et puis nous, on est beaucoup là-dedans, beaucoup dans l'énergie, le sourire, la bonne humeur, l'enthousiasme et tout ça. Et puis, faut être un peu au taquet pour tout, quoi, pour à la fois faire circuler la parole, tenir les timings, et puis faire en sorte que l'ensemble soit dynamique, quoi. Et nous, notre rôle d'animateur, c'est beaucoup ça, c'est faire en sorte qu'il y ait du rythme tout le temps dans l'émission, qu'il n'y ait pas de temps mort. Donc du coup, ça demande d'être un peu à fond tout le temps, et au bout de trois émissions, on est vraiment rincé, quoi. Voilà. C'est pas du tout pareil que le job que je pouvais faire avant, où j'allais passer une journée au bureau, par exemple. Même si ma journée au bureau était plus longue, j'étais moins fatigué à la fin de la journée. Là, en fait, il y a une espèce de tension nerveuse qui se rapproche un peu de ce qu'on peut vivre quand on va sur scène, quoi. Et du coup, forcément, il y a une dépense d'énergie qui est plus forte, quoi.
Et comment est-ce que vous préparez vos émissions ?
Alors, il y a des journalistes qui travaillent au contenu de l'émission et aux invités, qui vont appeler des invités pour les faire venir sur le plateau. Mais avant ça, nous, on détermine les thèmes avec la rédactrice en chef. Donc, on fait des réunions où on essaie de repérer ce qu'il y a dans l'air du temps et de choisir les thèmes des prochaines émissions. Et donc là, il y a les journalistes qui se mettent à chercher des invités, à les interroger d'abord une première fois par téléphone pour voir ce qu'ils ont à dire. En fonction de ça, on fait des interviews, on prépare des interviews. Nous, on fait tout à distance maintenant, donc on est sur un document partagé et puis chacun ajoute un peu sa petite pierre à l'édifice. On ajoute les chroniques, les éléments qu'on va présenter. Et puis, maintenant, comme ça fait 8 ans qu'on fait cette émission, on est hyper rodé, donc, tout ça est très très organisé. Et là, par exemple, cet après-midi, je dois préparer une émission pour la semaine prochaine. À chaque fois, c'est la semaine d'avant. Nous, en fait, on met la dernière patte, quoi. Avec Maya, on doit finaliser les textes, quoi. Donc on retravaille un peu les textes pour mettre la touche finale et faire en sorte que ça marche bien, que le rythme soit bon et que les interviews soient intéressantes, quoi. Voilà.
Et pendant le confinement, vous avez dû vous réinventer puisque vous faisiez l'émission à distance chacun chez vous. Est-ce que c'était important pour vous de continuer l'émission malgré le confinement?
Ah bah oui, nous on trépignait parce qu'on a été arrêté, je crois, 15 jours c'était dur comme ça, en pleine saison, de devoir s'arrêter. Mais parce qu'on n'avait pas de solution à ce moment-là, et donc puis tout le monde était un peu en panique. Enfin, c'était un peu particulier à cette époque-là, avec Macron qui nous dit que c'était la guerre. Bon.
Oui.
Et du coup, en fait, on a trouvé une solution technique avec une personne qui est venue chez nous, qui nous a installé à chacun une caméra chez nous. Enfin, à Maya et à moi, une caméra chez nous. Les autres étaient en Skype, les chroniqueurs. Et donc, j'avais caméra, lumière, son, tout ça. Et en fait, c'était envoyé ensuite avec un système qui passe par la 4G. Donc c'est plein de c'est comme si on avait 12 téléphones et avec plein de puces et tous ces téléphones réunis permettent d'envoyer un signal suffisamment puissant au car régie et avec Maya on faisait la même chose, et donc on arrivait comme ça à se parler à distance et à essayer de faire à peu près une émission qui tienne la route. Après voilà, c'était pas comme la quotidienne, quoi, habituelle. Évidemment, il y a toujours un petit décalage de son, donc du coup c'est moins spontané, c'est moins c'est moins sympa, mais au moins ça nous a permis de garder le lien avec les gens, puis et les téléspectateurs, ils étaient assez reconnaissants de ça, du fait qu'on continue, parce qu'il y avait beaucoup d'émissions qui s'étaient arrêtées à ce moment-là, et les gens sont confinés, donc pour beaucoup, et notamment des personnes âgées qui sortaient pas du tout de chez eux, bah parfois les seules personnes qui voyaient sourire de la journée, c'était nous, quoi. Donc je pense que c'était important d'être là et de continuer à voilà à montrer que il y a voilà qu'il y avait de la vie, de l'activité et de l'espoir aussi derrière, quoi. On essaie toujours nous d'être très positifs dans l'émission et de pas plomber les gens. Les gens avaient déjà entendu parler du coronavirus partout, donc oui. Nous on en parlait forcément parce que c'était rentré dans notre quotidien de manière très forte, mais on essayait aussi de montrer les solutions qui existent et les choses positives, les élans de solidarité qui se présentaient partout en France. Donc je pense que ça faisait du bien. Enfin, ça a fait du bien et beaucoup de gens nous l'ont dit. Même si techniquement, c'était très dégradé par rapport à l'émission habituelle, quoi.
Et vous étiez vraiment tout seul chez vous ou il y avait un technicien ?
Il y avait un technicien, ouais. Ouais, qui était obligé d'être là pour gérer tout ça parce que c'est assez lourd en fait techniquement pour envoyer tout ça. J'aurais été incapable de le faire moi-même, enfin ça aurait pas été faire un Skype, ça il y a pas de problème. On l'avait fait d'ailleurs les 15 jours avant, on faisait un Skype sur Facebook tous les jours. Mais là on envoyait vraiment comme un signal télé, quoi. Donc la qualité était vraiment bonne et ça demande une installation particulière, donc on avait fait venir un technicien et qui était là tous les jours, ouais.
Et pour terminer cette deuxième partie d'interview, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote sur la quotidienne ?
Une anecdote sur la quotidienne ? Je sais pas dans quel domaine, qu'est-ce qui t'intéresse ?
Sur le tournage.
Écoute, là, j'ai pas comme ça en tête l'anecdote qui vient. Mais en fait, nous, tous les jours on vit des choses assez folles sur cette émission, quoi. C'est avec Gérard notamment qui maintenant est parti, qui a pris sa retraite. On a eu des moments de fou rire épiques parce que Gérard en fait il a un truc, c'est que il peut en cours de tournage quand il rigole trop, il peut faire un malaise en fait. Ça peut lui déclencher une forme de malaise. Et donc ça, les téléspectateurs s'en sont pas forcément rendus compte, mais parce que nous, ça nous faisait peur en fait quand il faisait son malaise, parce que vraiment, il s'écroule, quoi. Ça nous est arrivé une fois en répète où vraiment il est tombé. Je l'ai retenu. Par le bras, parce qu'heureusement j'étais à côté. Et puis après on s'est mis à plusieurs pour le dire, mais où il est vraiment tombé de rire, quoi. Après ça dure 3 secondes et puis hop il reprend ses esprits. Mais c'est déjà arrivé une fois pendant l'émission. Alors il était assis et puis la caméra était pas sur lui, donc ça ne s'est pas vu. Mais on a vraiment eu peur une fois parce qu'on était en direct et qu'il a eu un malaise comme ça. En direct pendant l'émission, et heureusement il voilà. 3 secondes après, il était revenu, quoi. Mais c'est très, très bizarre de voir des chroniqueurs qui d'un coup ferment les yeux, quoi. Voilà, et s'effondrent, quoi. C'est très, très bizarre. Ça restera un souvenir gravé longtemps, je pense.
Alors, dans quelques instants, ce sera la dernière partie de cette émission. Pour l'heure, c'est le moment d'une pause musicale sur Just for Fun. À tout de suite.
Le jour, je fais des efforts. Hélas, quand la ville dort, v'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Le jour je bats les records, mais quand change le décor, v'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois, mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois, mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. le jour je suis matador. Hélas, la nuit frappe fort. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. La journée m'est indolore. Hélas, quand la nuit me mord. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Se jouer de moi. Se jouer de moi. Se jouer de moi.
Nous sommes de retour sur Just for Fun. Vous êtes toujours dans l'émission en tête à tête avec, et je suis toujours avec Thomas Hill. Thomas, pour cette dernière partie, j'ai encore 3 questions pour vous.
Ouais.
Alors, vous faites aussi de la radio sur Europe 1. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce média ?
Alors, ce qui me plaît, c'est justement de me débarrasser de l'image. En fait, quand on vient de la télévision, c'est un luxe de se débarrasser de tout ce qu'on doit faire pour bien présenter, avoir une bonne tête, être maquillé, coiffé, voilà. Donc c'est très chouette et en même temps, parfois ça fait du bien de sortir de ça et de se dire bah tiens là maintenant je vais me concentrer et je vais essayer de faire passer les choses uniquement par la voix. Et ça j'aime beaucoup ça. Je trouve ça vraiment intéressant à faire. On peut arriver avec vraiment une sale tête, être mal réveillé et tout ça, mais c'est pas grave, en fait, ce qui compte, ça va être juste la voix, et puis du coup, le travail aussi pour essayer de faire en sorte que cette voix, elle soit la plus naturelle possible, et que ça, en fait, tout l'enjeu en radio, c'est de lire un papier sans donner l'impression de lire un papier, quoi. Mmh. Et ça, c'est pas évident, hein. Certains y arrivent très très bien, et puis parfois d'autres, on l'entend qu'ils sont en train de lire, quoi. Mmh. Et donc, ça, je trouve ça marrant à faire, et puis c'est un autre rythme, c'est ultra timé, la radio. En tout cas, sur Europe 1, vraiment, ils ont des temps très serrés, faut envoyer la pub à telle seconde, enfin voilà, c'est très très précis. Donc c'est bien, c'est une bonne école aussi, ça aide à travailler aussi le rythme. Donc j'aime bien. Et puis juste le fait de faire autre chose, en fait, d'être dans un autre univers, d'apprendre autre chose, c'est une autre manière d'exercer ce métier que j'aime. Donc, voilà pourquoi ça me plaît de faire de la radio de temps en temps. Après, j'aimerais en faire plus. J'ai eu l'occasion là d'en refaire un peu pendant les vacances, ça m'a plu. Ce qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai une quotidienne en télé et qui, comme je vous le disais, prend beaucoup de temps dans la journée. Donc c'est dur de trouver quelque chose qui soit compatible avec ça en radio. Hein. Mmh. Voilà, mais j'aimerais bien y arriver un jour. Ouais.
Mais moi j'ai fait 2 stages de 3e, dont un chez Europe 1, et j'ai trouvé ça super impressionnant de voir l'envers du décor et comment est-ce qu'une émission se fabrique, et aussi de voir les techniciens qui réalisent l'émission.
Ah ouais, c'est un gros boulot, hein. Hein, c'est un gros boulot. On réalise pas du tout, en fait, en écoutant la radio, on dit bon bah ok, c'est un gars derrière son micro, mais en fait y a bien plus que ça autour, et c'est un vrai mais média particulier, quoi. Et puis de l'intime aussi, c'est ça qui est chouette, c'est que j'ai l'impression qu'on rentre plus dans les oreilles des gens, parce que en télé les gens sont quand même un peu pollués aussi par l'esthétique, et je me rends compte qu'on va avoir beaucoup de commentaires sur la manière dont on est habillé, par exemple, ça intéresse beaucoup, ou coiffé, ou je sais pas quoi, bon. Et en fait quand on enlève ça, et bah du coup on a une relation différente avec les gens, c'est chouette.
Et durant le mois de novembre, sur votre Instagram, vous avez parlé de l'association AIDA et de l'opération Noël à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association ?
Bah oui, parce que je trouve que c'est vraiment une super association emmenée par Léa Moukanas, qui est très jeune et qui a commencé très très jeune. Je crois qu'elle avait 16 ans quand elle a lancé cet assaut. Ils étaient juste quelques-uns à se dire bon, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour les enfants qui sont dans les hôpitaux, qui ont pas de cadeaux ou qui s'ennuient toute l'année, leur faire faire des activités parce que passer ces journées dans une chambre d'hôpital, il y a rien de plus glauque. Et du coup, ils se sont bougés entre jeunes, à quelques-uns au début, des milliers aujourd'hui. C'est partout en France, c'est dans plus de 50 établissements hospitaliers. Où toute l'année ils s'occupent des enfants à leur faire faire des activités dans leur chambre, et puis il y a cette grande opération à Noël où on offre des cadeaux et où ils ont fait un site internet qui est très bien fait, de Noël à l'hôpital, où chacun peut décider d'offrir à un enfant en particulier. C'est ça qui est bien aussi, c'est que on voit que c'est le petit Mathéo qui voudrait un Playmobil à Noël, je vais lui offrir. Ça va me coûter 18 euros. Derrière, je peux défiscaliser si j'ai besoin. Et tout ça, c'est très simple, mais ça fait un rapport direct parce que on est content à l'arrivée d'avoir fait un joli cadeau à un enfant qui en a besoin et qui parfois passe des journées entières tout seul, quoi. Qui a juste la visite de médecin, donc c'est vraiment pas drôle, quoi. Et c'est vrai que moi, comme j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps dans les hôpitaux avec ma fille à une période où elle allait pas bien, j'ai croisé des enfants et des parents qui étaient vraiment en détresse, quoi. Et donc quand ils m'ont sollicité pour parrainer cette opération, j'étais content de le faire.
Et puis ça doit amener un peu de sourire, un peu de joie dans l'hôpital et pour les enfants.
Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est des jeunes qui se mobilisent, et ça je trouve ça génial. J'ai rencontré leurs équipes, je suis allé dans leurs locaux, et ils ont tous 20 ans, quoi. Et je trouve ça fort, en fait. À 20 ans, à un âge où parfois on peut être justement plutôt tourné sur soi, sur ses problèmes, sur son avenir, et à juste titre, en plus se dire non, je vais aller donner du temps à des enfants, à une association, et je trouve ça formidable, quoi.
Alors j'ai une dernière question pour vous, Thomas. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore faites mais que vous aimeriez faire?
Oh, il y en a plein. J'aimerais moi j'aime tellement ce métier que j'ai envie de tout faire. J'aimerais présenter à peu près toutes les émissions du PAF. C'est-à-dire que moi j'ai envie de m'essayer à d'autres exercices. J'ai beaucoup travaillé notamment sur des jeux, parce que j'étais avec Nagui, donc j'ai développé beaucoup de jeux. Donc par exemple ça m'amuserait un jour de présenter un jeu à la télé. Tu m'entends toujours?
Oui, ouais. J'entends.
Pardon, j'ai eu un vide. Et j'aimerais aussi, parce que je m'intéresse beaucoup à la politique, un jour pouvoir parler de politique à la télévision. Enfin voilà, moi je peux aller dans beaucoup de directions parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la vie. Donc, des rêves, notamment d'émissions, j'en ai beaucoup. Et puis après, j'ai aussi l'envie de un jour refaire ce que je faisais une période, faire un peu de scène, parce que ça c'est un passe-temps, c'est une passion à côté, mais que je trouvais hyper sympa. J'ai eu l'occasion un jour de faire une fois dans ma vie un petit truc de stand-up et j'avais adoré cette expérience. Donc un jour faut que j'aie le courage de rééditer ça, voilà. Mais c'est un, du boulot, et deux, beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse, parce que c'est très très dur de monter sur scène avec un texte qu'on a écrit. Donc je sais pas si j'en aurai le courage, mais j'aimerais bien. Donc, des rêves, oui, non, j'en ai plein encore. Puis j'en ai aussi maintenant pour mes enfants, parce que j'ai deux enfants, donc j'ai le rêve qu'ils soient heureux dans la vie. Voilà.
Eh bien, c'est un très beau rêve. Et nous allons terminer cette émission par une petite info insolite. En 2016, vous avez été élu par un magazine l'homme le mieux coiffé du PAF.
Eh oui, devant Laurent Delahousse. Incroyable. Donc, j'en étais extrêmement, extrêmement honoré. Et d'autant que l'année d'avant, j'étais derrière Harry Roselmack, qui est chauve. Donc, j'étais assez vexé. Voilà. Mais voilà, c'est ce qui restera de ma carrière, c'est ce beau classement.
Eh bien, merci beaucoup Thomas d'avoir été avec moi. C'était vraiment un plaisir de vous avoir dans cette émission et c'était super intéressant.
Bah, c'est cool, merci. À bientôt et bon courage pour la suite.
À bientôt et merci beaucoup. Et quant à vous, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous pendant cette émission. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode en tête à tête avec d'ici là, passez une belle soirée et à bientôt sur Just for Fun.
Ton visage me dit quelque chose. Je t'ai déjà croisé dans la ville. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel, quand tu veux t'appelles, je serai à l'hôtel. Dans un nuage de fumée, je te vois derrière les vitres teintées. Ce soir, je vais quitter le rinté. Regarde-moi dans les yeux, je deviens amnésique. Je crois que ton corps me rappelle des souvenirs d'Amérique. Bébé, là j'ai envie de faire le dingue, fais-moi oublier le Banks. Bébé, là j'ai envie de faire le dingue, fais-moi oublier. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Bébé, dis-moi ce que tu veux faire, dans quel resto tu veux manger. Est-ce que ça te dérange si je conduis vite ou est-ce que t'aimes le danger? N'aie pas peur, non, non, j'ai pas de cœur, ouais. Mais je prendrai soin de toi comme la recette d'un braqueur, ouais, ouais. Atikio, pas homme de souk, mais homme de sou. J'fais des tonnes de billets, viens m'en prendre un petit peu, tu vois le Porsche. J'suis en dessous, j'suis dans le zoo. Mais t'es la seule que je laisserai me descendre à petit feu. Angela, appelle-moi ce soir et j'démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et j'démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et j'démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir et j'démarre de la zone. Regarde-moi dans les yeux, je deviens amnésique. J'crois que ton corps me rappelle les souvenirs d'Amérique. Angela.